Je m'appelle Isabelle et vous écoutez la série de podcasts « Nos précieuses ressources ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément qui s'est discrètement introduit dans nos vies, propulsé par notre soif d'interconnectivité et de mobilité, mais aussi notre transition énergétique. Longtemps considéré comme une curiosité de laboratoire, le lithium est devenu en quelques années indispensable à notre quotidien, bien souvent à notre insu. Dans ce podcast, je vais vous raconter pourquoi le lithium est devenu l'objet de toutes les convoitises.
Quand on achète des produits plutôt électriques, trottinettes, vélos électriques, oui, c'est bien au niveau de la nature, mais quelle nature? La nature dessus, de les consommer, l'extraire, les vider de ses ressources. Et c'est un cercle un peu infernal qui occasionne ce qu'on appelle l'Eldorado de l'or vert, blanc, pardon.
L'or blanc, dont parle l'artiste, journaliste et activiste mexicain Ivan Torres, c'est le lithium. Il est présent dans nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos tablettes, nos trottinettes ou plus récemment, les voitures électriques. En à peine un siècle, l'engouement pour le lithium est devenu tel que sa production a littéralement explosé. Elle a entraîné dans son ascension celle du cours des marchés mondiaux. Les nouvelles technologies, notamment celles liées à la transition énergétique, sont particulièrement friandes de ce précieux conducteur aux grandes propriétés thermiques. Son importante conductivité, ses applications multiples, ont fait de cet agent alcalin un élément incontournable, que ce soit dans l'industrie automobile, numérique, pharmaceutique ou aéronautique. Beaucoup disent que c'est le remède miracle. Il permet de réduire notre consommation en énergie fossile. Mais il n'est pas aussi écolo que ça. C'est pour dénoncer les conséquences désastreuses de l'exploitation du lithium qu'un groupe de femmes d'Argentine et du Chili ont contacté Ivan Torres.
L'exploitation du lithium, c'est des, comme disait la personne qui m'a contacté, les Vieguitas, les compagnies minières, quand ils commencent à s'approprier d'un territoire, ils font l'utilisation de minéraux, mais aussi ils commencent à transformer l'économie sociale. C'est-à-dire qu'il y a une installation de bordels, de bars, etc. Et ils s'éloignent les gens de ressources naturelles et ça répercute dans l'économie sociale et aussi l'économie écologique de la région.
70% des réserves de lithium se trouvent dans le triangle du lithium, c'est-à-dire le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Aujourd'hui, les femmes de ces trois pays se sont unies pour protéger leur environnement. Les Vieguitas, comme on les appelle, sont prêtes à défendre leurs terres, becs et ongles.
Il y a trois fronts, c'est-à-dire le front local, c'est la conscientisation de la population. Ils font des manifestations, ils font des marches tout à fait pacifiques. C'est quelque chose de remarquable, c'est que la majorité, c'est des femmes. Parce qu'il y a une connotation très forte, comme on le sait, avec la Pachamama, la Mère Terre, en Amérique latine. Et c'est un groupe de femmes qui se commence à organiser et à attirer l'attention des jeunes, et surtout de la population locale, pour essayer de défendre ça. Ça, c'est au niveau local. Ils font des marches, ils font des manifestations, mais à niveau international, ils demandent l'aide à toutes les gens qui peuvent faire écho. Voilà pourquoi ils m'ont proposé de faire un article, que moi, avec tout ce que j'ai enquêté un peu là-dessus, j'ai proposé à Reporter, que Reporter a accepté, et maintenant, les gens commencent un peu à connaître ce qui se passe quand on dit lithium dans le monde.
Elle dénonce tout particulièrement la corruption de leurs élus locaux qui en retirent le principal bénéfice.
Comme c'est des régions qui se partagent au niveau gouvernemental, municipal, il y a beaucoup de pots de vin, et donc les Vieguitas dénoncent cette mainmise d'industries minières dans leur région pour l'extraction notamment de l'eau. C'est-à-dire qu'au moment de s'installer l'industrie minière, ils commencent à acheter des politiciens. Donc les politiciens commencent à voter des lois ou des permissions d'exploitation. Des cours d'eau, par exemple, ils commencent à utiliser des cours d'eau, dévier certaines rivières. Et il y a le cas d'une petite lac qui était totalement asséchée parce qu'extrait de l'eau pour la transformation de lithium. Et c'est ça qui commençait à dénoncer les Diaguitas il y a depuis quelques années. Et que depuis quelques années, ils commencent à demander de l'aide à niveau international, notamment à niveau journalistique, pour faire entendre ce qui se passe au sud. Parce que tous ces matériels, ils partent et eux, ils ne trouvent pas aucun bénéfice. C'est-à-dire qu'ils partent dans l'hémisphère nord pour la transformation de tous les produits qu'on connaît, vélo électrique, trottinette, portable, voiture, etc.
Jusqu'à la fin des années 90, le marché du lithium affichait des prix stables à 7 000 $ la tonne. Désormais, il se vend à prix d'or. Boosté par l'explosion des ventes de voitures électriques, les prix se sont littéralement envolés à 25 000 $ la tonne.
Car c'est un minéral très cher à extraire à niveau des ressources naturelles, donc où on peut extraire à bas coût, c'est dans les sud, dans les pays pauvres, comme notamment dans des régions pauvres aussi, puisque certaines régions en Amérique latine, c'est des gouvernements régionaux qui trouvent la négociation qui les aide à donner des concessions à pas trop cher pour l'extraction de lithium, avec des bénéfices d'une classe politique, mais pas de la société qui habite dans ces territoires.
Actuellement, 5 producteurs assurent 80% de la production mondiale, comme l'explique Ivan Torres.
Alors les industries notamment sont placées dans les hémisphères nord, donc au Canada, États-Unis, Chine. Chine, c'est un peu celui qui pousse à essayer d'accaparer tous les produits dérivés de lithium. Japon un peu aussi, et des conglomérats anglo-suisses. Et c'est des industries qui sont très connues, sont des industries minières, qui commencent aussi, eux, à développer l'extraction de lithium, parce que c'est une industrie traditionnelle de l'or, de l'argent, etc., cuivre, et qu'avec le lithium, ils se sont dit que ça avait un nouvel Eldorado exploité dans les sud de l'hémisphère.
Alors, quelles conséquences au niveau international? Ce que nous dit l'activiste mexicain, c'est que les cartes sont en train d'être battues.
Ben, je pense qu'il y a une belle intention en Europe, dans l'Occident, on va dire, pour essayer de réduire la consommation d'énergie fossile. Et ils pensent, la majorité, que l'électrique c'est une solution, mais l'électrique c'est une conséquence du capitalisme vert, qui essaye de nous vendre la consommation clean, ou propre, de quelque chose qui est une industrie. Et je pense qu'il y a des pays qui commencent un peu à se rendre compte que c'est le pétrole de 2022, enfin de cet siècle qui commence. Et il y a des pays comme le Mexique qui commencent à nationaliser le lithium. La Bolivie, avec un fort engagement politique, a commencé aussi à le protéger. Voilà pourquoi il y a aussi des coups d'État avec Evo Morales il y a quelques années, parce que c'est une question économique. Le Chili vient de changer la politique de leur pays. Donc on va voir si ces pays qui commencent un peu à défendre leur territoire et aussi leurs ressources pouvant limiter les dégâts de l'extraction de lithium.
Après le pétrole, le lithium va-t-il devenir le nouveau nerf de la guerre? Il va sans aucun doute continuer à diviser les deux hémisphères de notre planète.
Avoir la conscience écologique, c'est très important, mais aussi la conscience sociale de ce qui peut dériver avec la consommation du capitalisme vert, que c'est aujourd'hui une espèce de oasis, un déguisement de la consommation verte. Et je pense qu'on a malheureusement l'habitude que c'est toujours le Sud qui donne tous les minéraux, toutes les ressources naturelles pour essayer de maintenir un niveau de vie, que c'est celui de l'Occident.